Il n'y a plus de rite funéraire en France. Ce n'est pas ce que vous croyez. Aujourd'hui, dans le podcast du Bizarreum, je vous fais une lecture de mon dernier article qui s'intéresse, bien entendu, vous l'avez compris, au rite funéraire. Bien souvent, on dit qu'il n'y a plus de rite. Et pourtant, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je vous laisse écouter le contenu de cet article publié en mars 2024. Une genèse. Il y a 14 ans de cela, je commençais à m'intéresser aux questions mortuaires et funéraires au sein de mes études. Si ces premières approches ont été archéologiques, elles concernaient majoritairement des peuples anciens. La distanciation et parfois le peu d'éléments tangibles rendent le travail sur les gestes autour des morts et les rites plutôt complexe, il faut le dire, avec à la clé beaucoup d'interprétations pour certaines périodes. Des interprétations qui s'avèrent aussi glissantes lorsque l'on manque de sources écrites. En étudiant l'anthropologie, cela a été en parallèle un déclencheur pour moi afin d'envisager une meilleure compréhension des rites, qu'ils soient contemporains ou plus anciens. L'ensemble de ces deux disciplines m'ont mené, au fil du temps, à une thanatologie tant théorique que de terrain. Au fil des ans et des voyages pour découvrir diverses cultures, je sentais qu'il me manquait quelque chose dans mon approche de la mort en restant dans le cadre de l'archéologie et de l'anthropologie. Ceux que j'appelle avec affection « les vieux morts » en archéologie me retenaient bien trop dans mon apprentissage et dans ma réflexion globale autour du monde funéraire. J'avais besoin, dans mon travail et dans mes pensées au fil des ans, de m'inscrire dans le réel et de comprendre ce qu'il se passait chez moi, en France, à l'heure actuelle. C'est ainsi qu'en 2020, j'ai basculé des vieux morts aux nouveaux morts, en quelque sorte, en me formant au métier du funéraire. J'avais bien et mal choisi ma période, car j'étais une main-d'œuvre nécessaire lors de l'épisode épidémique que nous avons connu, et je me retrouvais malgré moi face à des gens privés de rites funéraires. Et comme mes collègues ainsi que les familles, chacun était à sa façon démuni. Les uns par manque de directives, les autres par manque de rites. Un fait inédit au regard de la situation funéraire habituelle dans mon pays et de façon plus générale dans beaucoup de pays du monde. Un moment clé également, car de là se sont posées de nombreuses questions autour des rites dans la société. Les questionnements sur la mort étaient à nouveau au goût du jour. Preuve en est le nombre de médias, de reconversions professionnelles et d'émergences d'innovations funéraires, pour le meilleur et pour le pire. En parallèle, dans le cadre de mon travail de recherche, on me posait toujours la même question lorsque j'étais interviewée. Pourquoi il n'y a pas ou plus de rites en France? Pourquoi avons-nous perdu notre rapport à la mort? À ces questions, il y avait toujours le regard historique, mais aussi pratique en réponse. La médicalisation de la mort, le XXe siècle durement touché par la mort à grande échelle, que ce soit à cause des guerres ou des épidémies meurtrières, le peu de temps accordé dans notre société actuelle au deuil, le problème de la rentabilité dans un monde où il faut retourner travailler rapidement alors que l'on souffre. Et bien d'autres raisons encore. Mais dire qu'il n'y a plus de rites en France est un poncif récurrent que l'on retrouve à toutes les sauces. Cela fait une bonne accroche littéraire ou journalistique, disons-le. D'ailleurs, cette idée me rendait toujours sceptique, sans vraiment bien réussir à mettre le doigt dessus. Il me fallait réellement aller sur le terrain pour me rendre compte qu'il y a bel et bien encore des rites en France. Cette idée de l'absence de rites est une conclusion qui émane, à mon sens, d'une mauvaise connaissance du monde funéraire cosmopolite existant en France métropolitaine et en territoire ultramarin. Les rites sont encore bien vivants chez nous, mais tout le monde ne s'y retrouve pas forcément, d'où cette sensation pour beaucoup de ne pas se reconnaître dans les rites existants. Par conséquent, la sensation de disparition des rites montre aussi une forme de manque pour certaines personnes. Chose à laquelle le rituel peut répondre, mais il n'est pas exact d'affirmer que les rites funéraires n'existent plus. L'axe qui m'a particulièrement intéressée en travaillant ces dernières années et jusqu'il y a peu en chambre funéraire se concentrait principalement sur ces questions de rites lorsqu'elles touchent le traitement des corps morts. J'ai moi-même accueilli et préparé les corps ces dernières années, tout en travaillant avec des professionnels religieux ou non religieux présents pour s'occuper des défunts également. Dans une chambre funéraire de grande taille et de grande ville, cela était un terrain de recherche et de travail particulièrement intéressant, puisque j'avais bien plus d'admissions de corps que lorsque j'ai pu travailler en zone rurale, et forcément bien plus de diversité. C'est là que j'ai vraiment pu observer une part des rites en France lors de la préparation des défunts, mais pas que, qui me font dire que les rites sont loin d'être disparus. À l'origine, une mauvaise connaissance des rites actuels, un modèle standardisé. En 2020, lorsque j'ai passé mon diplôme de conseiller funéraire et maître de cérémonie, j'ai suivi, comme de nombreux élèves, des cours obligatoires dans le cadre de ma formation. La profession étant encadrée par un diplôme national, l'enseignement et les révisions sont primordiales pour réussir afin de décrocher le précieux sésame. Bien que l'école que j'ai pu choisir nous ait dispensé des cours extrêmement intéressants, j'attendais avec impatience la partie sur les rites funéraires, puisqu'elle compose mon cœur de recherche depuis longtemps. Et face à la montagne de connaissances juridiques à avoir ou encore de sécurité et d'hygiène, cette partie des rites est restée à mon goût relativement succincte. C'était aussi celle qui intéressait le moins certains de mes collègues, car elle était exigeante en termes de connaissances religieuses ou historiques. Et pour beaucoup, cela est rébarbatif, car tout le monde n'a pas ce type d'approche dans son socle éducatif, ni une appétence pour cela. On ne peut blâmer personne. Et c'est en comparant avec le programme d'autres écoles funéraires par la suite avec mes amis que j'ai réalisé que la partie des rites était bien souvent survolée. Cela est à mon sens préjudiciable, surtout lorsque l'on est professionnel. En effet, sur le terrain, je me suis rendu compte que beaucoup de collègues à divers postes, en particulier en conseil funéraire, se trouvaient démunis lorsque leurs clients ne répondaient pas au schéma classique de la toilette simple ou encore du soin de thanatopraxie, visite, cérémonie, enterrement ou crémation. En clair, c'était le saut dans le vide pour certains lorsqu'un défunt était d'une confession particulière avec des rites particuliers. Encore plus avec ses éléments précédents à rapatriement de corps ou des obligations de soins de conservation. On ne peut encore une fois pas blâmer les gens pour cela. Mais la France est extrêmement riche en cultures et en pratiques diverses, et même syncrétiques, là où une religion est teintée de pratiques culturelles variées. Il devenait évident pour moi que le manque de connaissance des rites pouvait avoir une grande incidence sur la prise en charge des morts, en particulier lorsque cette prise en charge n'était pas faite par des pompes funèbres spécialisées dans le dit rite. Et par méconnaissance ou manque de curiosité, on peut passer à côté des besoins des familles. Un simple geste ou une simple parole montrant que l'on s'intéresse à d'autres cultures que la sienne peuvent énormément débloquer une situation compliquée. Cela est même valable avec des personnes n'ayant pas de langue en commun avec nous lorsque nous les accueillons en chambre funéraire. Bien que certaines pompes funèbres se spécialisent dans leur rite ou communauté, elles travaillent bien souvent avec des chambres funéraires polycultes où elles utilisent le matériel sur place afin de mener à bien leurs gestes techniques. Par conséquent, le lien entre spécialistes d'un rite, toiletteurs, familles qui participent aux étapes de la préparation du mort, religieux et professionnels du funéraire dit classique, s'avère constant dans les zones techniques de ces établissements. C'est probablement un des seuls cadres où religieux et non religieux se rencontrent pour travailler ensemble au bon départ d'un défunt. Ainsi, dire qu'il n'y a pas de rite en France est à mon sens faux. C'est qu'une partie importante de la population ne se reconnaît pas dans ce qui existe. Dire qu'il n'y a plus de rite, c'est aussi une certaine façon ethnocentré, et le monde funéraire actuel est principalement présenté au public dans un modèle très préconçu qui exclut beaucoup de rites. C'est ainsi que la plupart des gens du grand public pensent que la préparation des corps ne se fait que par le côté technique de la thanatopraxie, par exemple. Mais beaucoup ignorent qu'il y a des pratiques ritualisées pour traiter les corps morts et que le panel de possibilités est bien plus large. Ce sont par conséquent des pratiques traditionnelles et religieuses qui s'inscrivent dans un milieu funéraire qui les connaît globalement mal. Pourtant, s'y intéresser permet de rendre les interactions professionnelles bien plus fluides à tous les niveaux, tant techniquement qu'avec les familles. Des univers funéraires cloisonnés. S'ouvrir aux autres pratiques funéraires dans son pays. En pratique, le rapport entre les acteurs du monde funéraire traditionnel et religieux versus le monde funéraire tel qu'il est aujourd'hui ne facilite pas la rencontre. Il n'y a pas réellement d'endroit, à part en chambre funéraire ou mortuaire, où ils peuvent se croiser. Peut-être lorsqu'ils sous-traitent un transport de corps à une autre entreprise. En ont-ils la nécessité en dehors de cela ? En réalité, les rapports sont bien plus fréquents dans les faits qu'en théorie. Il m'est arrivé souvent d'entendre des élèves en pompe funèbre me dire que leur chance de rencontrer des clients religieux, musulmans ou juifs restait rare, car ces derniers vont dans des entreprises spécialisées. C'est un discours que l'on peut entendre en école d'ailleurs. Certes, cela est une réalité, mais cela n'exclut pas qu'un jour, un de ses conseillers funéraires en devenir ne soit pas confronté au fait de travailler avec des personnes issues d'une culture qu'ils ne connaissent pas et dont ils ignorent les rites. Parce qu'ils auront besoin de toiletteurs spécialisés, parce qu'ils réaliseront que les recueillements n'ont rien à voir avec les cérémonies qu'ils ont l'habitude d'organiser. En bref, une bonne connaissance des rites et de leurs acteurs permet aussi d'avoir un regard bien plus large sur le monde funéraire, et surtout bien plus riche. Néanmoins, l'approche avec les professionnels des rites n'est pas toujours simple pour celles et ceux qui s'y intéressent. D'une part, parce que le traitement religieux et rituel des morts est entouré de secrets. Non pas des secrets volontaires, même si cela arrive, mais des choses difficilement compréhensibles pour celles et ceux qui n'ont pas les références religieuses ou culturelles. Cela est particulièrement visible dans le traitement des corps. Un acte qui n'est pas ritualisé pour de nombreuses personnes en France, mais qui l'est toujours pour une bonne partie de la population. Ce qui me pousse aussi à réfléchir aux façons de mieux faire dialoguer toutes ces personnes pour une meilleure compréhension de la diversité qu'il existe au sein du monde funéraire. D'expérience, si vous êtes bien intentionné et que vous respectez vos interlocuteurs, vous avez davantage de chances que l'on vous explique des choses qui sortent de votre système de compréhension. C'est valable lorsque j'ai pu assister à des enterrements à l'étranger, ou que je souhaitais en savoir plus sur les pratiques des toiletteurs et toiletteuses religieux à mon travail. Mais j'ai aussi accepté d'être mise à l'écart lorsque certaines pratiques, où le sacré et le profane ne peuvent être mélangés, et où ma présence d'ordre technique n'était pas nécessaire. Le monde des rites est avant tout un monde silencieux en termes de transmission, puisque le rite, par essence, rassemble des gens qui le comprennent et qui s'y retrouvent grâce à leur éducation ou à leur culture, et donc par leur communauté. Ce cloisonnement était visible pour moi également dans le monde funéraire commercial. À plusieurs reprises, j'ai trouvé que les salons professionnels funéraires n'étaient pas très diversifiés. Si certaines associations peuvent parfois s'y présenter, l'offre est très pauvre pour les professionnels qui nécessitent de conduire des rites avec du matériel particulier. La question de la neutralité en termes pratiques se pose aussi. Mais il est important de rappeler que notre pays permet à chacun d'exercer ses pratiques religieuses et donc funéraires du moment qu'elles sont en adéquation avec le cadre de la loi. Dans le monde des morts, c'est pareil et tout le monde doit pouvoir répondre à la chose la plus importante du droit funéraire, respecter la dernière volonté des défunts, qu'ils aient une mort ritualisée ou non. Présent et passé, le monde du silence, des gestes invisibles. La plupart du temps, le rite s'exprime lorsque des vivants se rassemblent autour du mort. Cela est une certitude et les notions de rite et de rituel ne doivent pas être mélangées. Surtout lorsque le rite est en réalité un ensemble de codes explicites et tacites connus d'un groupe qui peut culturellement s'y raccrocher. Lorsque je travaille sur les rites, je m'intéresse à ces codes. En tant qu'individu extérieur aux pratiques d'une communauté, il y a aussi des codes qui ne me sont pas connus ni explicités, car je ne rentre pas dans le cadre de celles et ceux qui ont le droit d'avoir l'information. C'est aussi cela d'accepter que les gens qui délivrent une information sur le terrain à propos de leur pratique ne souhaitent pas nécessairement tout partager aux profanes. L'invisibilité du monde secret de la préparation des corps est une question de respect, de pudeur, de prudence, mais également, bien entendu, de confidentialité. Ce qui sous-entend également la notion de la formation et de la transmission. La tâche avec les défunts, même par des bénévoles religieux, sous-entend une formation adéquate qui leur est apportée. L'invisible permet aussi de garder une distanciation, mais aussi de rester garant du bien-être des individus lorsqu'ils sont vulnérables. Le secret et le silence sont des vertus que l'on retrouve dans de nombreuses missions religieuses liées à la toilette des morts. Taire le secret de ce que l'on voit, garantir la dignité de cette fin physique. Ces principes sont valables également pour des toilettes non ritualisées. Des questions sur le passé. Dédié principalement à la préparation des corps, ces derniers temps, j'ai bien pu souvent transposer mes gestes du quotidien aux gestes du passé finalement. Un corps mort n'a pas réellement changé en quelques milliers d'années, et les gestes techniques se heurtent aux mêmes problématiques, même si dorénavant certains outils mécanisés nous aident au quotidien. Il faut dire qu'en archéologie, une préparation simple de corps n'est pas réellement visible sur les corps à l'état de squelette. On peut les supposer, les imaginer, en particulier lorsque les sources écrites vont en ce sens. Néanmoins, pour les peuples n'écrivant pas, les questions se posent toujours. Bien entendu, ils sont manifestes lorsque l'on est en présence d'une conservation du corps volontaire poussée. Il est vrai que nous-mêmes, professionnels, nous ne laissons presque aucune trace de notre passage. Même une ligature de bouche actuelle ne serait plus visible dans quelques milliers d'années. Le fil en fibre naturelle qui nous sert à tenir la mandibule disparaîtrait, et le coton de méchage dans les orifices également. Personne ne saurait par conséquent qu'une personne a bien effectué une toilette aux morts. Car la simple position du corps ne saurait nécessairement le supposer, puisque les mains peuvent être tout à fait repositionnées au moment de la mise en bière par un autre intervenant. Un indice pourrait néanmoins supposer un traitement particulier, un élément légèrement explicité par Lola Bonnabel dans « Archéologie de la mort en France ». C'est la présence, en contexte archéologique, de traces du bol fécal. En effet, de façon très courante, les défunts, lors de leur premier transport, par exemple du lieu de leur mort à leur lieu de séjour jusqu'à leur funérailles, peuvent expulser ce dit bol fécal. Il s'agit des matières fécales qui auraient dû être expulsées du vivant de la personne dans peu de temps. Autrement dit, aller aux toilettes. Cet élément-là, en particulier les parasites intestinaux, permettrait de savoir si le mort a été vidé ou non de son bol fécal au cours d'une toilette. Car c'est bien un geste qui est fait lors des toilettes religieuses à grandes eaux pour purifier. Pour autant, le prélèvement sur site archéologique pour ces éléments n'est pas automatique, puisqu'il nécessite des équipements et des précautions accrues. En réalité, c'est bien la différence entre la question du funéraire et du mortuaire qui se pose lorsque l'on aborde le traitement des corps. La toilette d'un mort n'est plus couplée à une pratique ritualisée. C'est un acte qui peut être refusé aussi, par exemple. Il est tout à fait possible que le mort parte sans aucune toilette ni soin d'ailleurs. Cela arrive par choix de la part des défunts de leurs vivants, ou malheureusement lorsque les communes qui prennent en charge les morts sans famille ne choisissent pas de leur payer une toilette funéraire. On le voit, la toilette, lorsqu'elle est effectuée sans vocation religieuse, n'est pas orchestrée par des gestes liés au rite, mais uniquement par des gestes effectués dans leur vocation technique. L'expression du rite dans la toilette du mort, la toilette du mort comme moment clé. À l'heure actuelle, les personnes qui ne se sentent pas liées à une pratique religieuse ne savent pas nécessairement à quel point la préparation du corps revêt une importance particulière pour certains. En effet, dans un monde funéraire en France où les gens sont au fait de la pratique de la toilette funéraire ou du soin de thanatopraxie, les deux dénués de portée sacrée ou religieuse, il y a pourtant une forte expression du rite pour de nombreuses personnes en France lors de ce dernier lavage. L'organisation de ces gestes est précise, en lien avec des textes religieux des religions concernées. Ce cas de figure est principalement visible chez les musulmans et chez les juifs, qui pratiquent une toilette ritualisée à grandes eaux, ou à sec si le corps ne le permet pas. Néanmoins, bien que d'autres religions n'exigent pas de rite lors de la préparation du corps, j'ai pu, lors de mes expériences professionnelles, ouvrir la porte du laboratoire à des religieux catholiques venus pour réaliser quelques gestes et récitations en amont de la toilette. Et il est même possible de voir non pas du rite, mais du rituel, comme lorsque les soignants pratiquent une dernière toilette en vue du départ d'un défunt de leur établissement, comme le souligne Jean-Marie Guelette. Ainsi, lorsque l'on parle de rite funéraire, la temporalité peut être plus ou moins longue selon les cultures et les endroits du monde. Les rites peuvent aussi être contrariés par les lois, par exemple. En France, il y a des délais légaux pour opérer les funérailles, tandis que dans d'autres pays ou cultures, les funérailles doivent être effectuées en très peu de temps. Ainsi, le rite doit s'adapter et en partie se transformer au gré des lois. Ce qui est réalisable puisque les toilettes dites cultuelles se pratiquent à grandes eaux, ce qui, avec le matériel adapté en laboratoire de chambre funéraire ou mortuaire, ne doit pas empêcher le travail traditionnel et le travail dénué de rites des autres acteurs du funéraire. En effet, le thanatopracteur ne travaille pas de la même façon que l'agent de chambre qui fait sa toilette, et les deux ne travaillent pas comme les toiletteurs cultuels. Pourtant, tous doivent se succéder dans les mêmes espaces techniques à tour de rôle. D'ailleurs, la présence majeure de l'eau purificatrice pour les toilettes cultuelles revêt une importance très forte dans la bonne exécution de la toilette. Là où le thanatopracteur ou l'agent de chambre funéraire ne travailleront que très rarement à grandes eaux. Ces dernières sont omniprésentes par contre chez les musulmans et les juifs. Les corps doivent rester intacts et la pudeur des défunts également. Ainsi, les gestes sont adaptés, les méthodes également pour mener à bien ces toilettes qui s'inscrivent dans le rite. Ici, tout est codifié et possède une portée religieuse. Distinguer rite et rituel. C'est ici qu'il est important de distinguer le rite où plusieurs personnes se retrouvent autour de croyances et de gestes communs à leur communauté et le rituel qui peut prendre une dimension plus personnelle et pas forcément religieuse ou sacrée. En anthropologie et dans d'autres sciences humaines, la définition de rite ou de rituel est une des plus complexes à aborder puisque ce débat a donné lieu à une bibliographie colossale sur le sujet. On peut même dire qu'il n'y a pas de consensus fixe sur les définitions exactes de ces termes. Néanmoins, on observe que le rite, qui s'inscrit dans une communauté ayant les mêmes codes, a un sens compris de tous. Il rassemble et fédère autour d'un événement. Il permet de mieux passer certains caps qui touchent un groupe humain, et typiquement, la mort est un des moments clés où le rite a une fonction aussi de régulation des rapports et de renforcement des liens. La notion de rituel, quant à elle, varie selon les disciplines, mais on n'est pas nécessairement dans une démarche collective. Le rituel peut tout à fait être personnel et compris par une seule personne qui va s'y rattacher. D'où l'importance de ne pas chercher à renouveler les rites dans une société individualiste, mais plutôt à penser à créer une ritualisation propre à chacun qui peut soulager, comme par exemple lors d'un deuil. Par conséquent, la distinction entre le rite et le rituel serait mieux utilisée si les professionnels et aspirants professionnels du monde des morts s'intéressaient à la nature même de ces deux concepts. Ce qui, pour ce dernier point de l'article, nous mène vers les avantages d'une meilleure formation au rite au sein des pompes funèbres. Les atouts d'une meilleure formation au rite dans le monde funéraire. Bien que, comme nous l'ayons vu, la question des rites soit abordée en formation funéraire, l'amplitude horaire et la masse de connaissances juridiques à acquérir n'offrent pas de temps suffisant pour bien approfondir les rites. De plus, certains professionnels et élèves n'y voient pas d'intérêt. Et pourtant, nous l'avons vu, un professionnel connaisseur de son milieu est un meilleur accompagnant pour les familles. Et la bonne connaissance des rites est un fondamental à mon sens. Voici une liste d'arguments en faveur d'un approfondissement de la connaissance des rites dans le monde funéraire. Apporter une ouverture d'esprit aux futurs professionnels face à un monde aux cultures multiples. Leur permettre d'avoir des clés pour gérer des funérailles qui sortent de leurs habitudes. Permettre un meilleur accueil des familles en connaissant ce qui est important pour elles. Contribuer à un meilleur départ religieux ou spirituel des défunts pour les vivants qui y assistent. interroger sa notion de dignité et de sacré, initier un dialogue et un intérêt pour les professionnels religieux qui prennent en charge les corps, comme les bénévoles de la Evra Kadisha pour les juifs et les laveurs pour les musulmans, mais aussi toute personne qui a besoin d'être présente pour accompagner le corps. Éviter les impairs culturels qui casseraient la confiance. Mieux aménager les espaces dédiés aux familles, mais également aux professionnels. Permettre aux professionnels du funéraire de mieux comprendre l'enjeu de leur travail dans l'accompagnement de chacun. Ouvrir un dialogue et rendre les professionnels de la mort plus pointus du côté conseiller, mais également du côté technique, comme les agents de chambre funéraire, de chambre mortuaire ou encore les thanatopracteurs. Avoir un meilleur argumentaire en lien avec les choses réalisables ou non dans le cadre des funérailles. Comprendre que sa vision n'est pas universelle, permettre d'évoluer vers une notion moins ethnocentrée de la mort. Je reste convaincue par mon travail empirique, mais également de terrain en chambre funéraire, que cet approfondissement théorique et pratique est nécessaire pour rendre les gens plus aptes à des situations auxquelles ils ne sont pas préparés à l'école. Le retour de famille dont on a compris les rites et pour qui on a donné le maximum est un grand privilège, encore plus lorsque cette culture n'est pas la nôtre. Ainsi, je ne peux concevoir que son poncif des rites qui n'existent plus ait autant la cote. C'est quelque chose à repenser et à remettre en question. Et je suis convaincue qu'une meilleure connaissance des rites est un bienfait dans les métiers du funéraire. J'espère que cette lecture vous a plu, que vous avez pu apprendre des choses, peut-être vu d'autres points que vous n'aviez peut-être pas envisagés si vous êtes professionnel ou aspirant professionnel du monde des morts. Et une fois n'est pas coutume, eh bien je vais faire ma petite publicité, puisque évidemment la question des rites, c'est mon travail, que ce soit théorique ou sur le terrain, vous l'avez compris. Par conséquent, je propose mes prestations de conseil et de formation, aussi bien aux professionnels qu'aux écoles, et bien sûr la possibilité de faire appel à moi en audit ou encore eh bien, en enseignement autour de ces sujets. Ravie quand je peux partager mon savoir et que je peux apporter de nouvelles clés pour des professionnels, puisque ce ne sont pas simplement des professionnels de la mort qui sont formés, mais des futurs experts, de futurs techniciens. Et là, encore une fois, je suis convaincue que plus un technicien est pointu, meilleur il est dans son métier. Je vous dis à très bientôt.